À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il serait question de quelqu'un qui est fort connu dans bien des milieux, c'est Anne-Catherine Emmerich. Anne-Catherine Emmerich était l'une des plus grandes voyantes, des plus extraordinaires voyantes, où le merveilleux, le surnaturel se pénètre. Ça a été très discuté, mais l'Église de plus en plus penche vers l'authenticité, depuis longtemps d'ailleurs. Et l'authenticité des visions en général d'Anne-Catherine Emmerich, pas toutes les visions, mais une grande partie, mérite lecture, méditation et d'être reconnue pour ce qu'elles valent. Il ne faut rien exagérer dans ces cas, mais ça demeure quelque chose de très valable, d'extrêmement intéressant. Nous avons, beaucoup d'entre nous, les visions d'Anne-Catherine Emmerich sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Paru il y a bien longtemps, c'est sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et de la très sainte Vierge, la douloureuse passion, puis l'établissement de l'Église par les apôtres. Tout ça, ça avait été coordonné en un seul tout, par le père Joseph Alvar Dulé, un dominicain. Et l'édition de Dulé, qui est parue chez Tequi, moi j'ai la 13e édition, est parue constamment, et je crois que c'est toujours publié, car, comme je vous ai dit, dans les ouvrages les plus sérieux, y compris le dictionnaire de spiritualité qui est sévère, c'est un immense dictionnaire en d'innombrables volumes, on y a un très bel article, plutôt favorable en l'honneur d'Anne-Catherine Emmerich. Il n'est possible, évidemment, dans une petite émission ici, de faire connaître un peu ses écrits, quelques faits. Je ne traiterai pas les questions scientifiques, ça, on a ça dans des analyses et des études très bien faites. Catherine Emmerich est née le 8 septembre, donc le jour de la nativité de la Vierge et la fête de ce Noël, si on peut dire, de Marie, n'est-ce pas, le 8 septembre 1774, il y a plus de 200 ans donc. Elle est née à Flansk, près de Goesfeld, où elle sera baptisée. C'est dans le diocèse de Münster, c'est en Westphalie, ça, en Allemagne, quoi. Elle est née de pauvre et de pieux paysan, elle était ignorante. Mais elle a eu, malgré son ignorance, et peut-être à cause de son ignorance, des faveurs extraordinaires. Elle a été l'objet, de faveurs fantastiques, qui ont commencé très tôt. Ça a suivi d'ailleurs une progression assez régulière, et dans son enfance, elle rapporte, et ça semble authentique, que son ange lui apparaissait. Le bon pasteur aussi se montrait à elle sous la forme d'un petit berger. Curieux, n'est-ce pas? On aurait pensé que ça aurait été un homme de 30 ans, mais non, un petit berger. Elle voyait la Sainte Vierge. Bon, vous direz que ça n'a pas de sens. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? L'histoire sainte lui a été enseignée dans ses visions, dans des visions, hein. Elle a le don de distinguer, et c'est là que les spécialistes, de très grands spécialistes, des médecins, des gens qui n'étaient pas croyants, comme des théologiens, des gens très très savants qui se sont penchés sur son cas en Allemagne, là, eh bien, elle avait le don de distinguer ce qui est bon ou mauvais, saint ou profane, béni ou maudit, dans des choses matérielles ou spirituelles. C'est très rare. Lorsqu'elle vient dans un endroit où se sont commis de grands crimes, elle raconte ça dans son autobiographie, elle fuit, ou elle prie, puis elle fait pénitence. Mettons en page 31 de son autobiographie, elle raconte... J'avais un sentiment d'horreur et de repoussement aux endroits où il y avait eu des tombeaux de païens. Ainsi, il y a peu de distance de notre maison une prairie et une butte de sable où je n'aimais pas à garder les vaches parce que j'y voyais toujours une vapeur noire et sinistre, semblable à celle que produisent des chiffons qui brûlent, rampée à ras de terre sans jamais s'élever. Je remarquais souvent là un obscurcissement particulier, et je vis de sombres figures répandant les ténèbres autour d'elle, errer çà et là et disparaître sous la terre, et je me disais souvent à moi-même, comme une enfant que j'étais, « Ah, il est bon que vous ayez d'épais gazons sur la tête, parce qu'ainsi, vous ne pouvez rien nous faire. » Cette autobiographie s'est intitulée Anne-Catherine Emmerich, E-2-M-E-R-I-C-K. Parfois, on met un H, mais c'est un K qui va à la fin. C'est la véritable appellation. Racontée par elle-même et par ses contemporains, oh, j'ai ça depuis si longtemps, je m'en souviens plus. C'est publié chez Téqui encore, à Paris, rue Bonaparte. Et les textes sont présentés par Madame Loutrel. Ça se lit comme un roman, parce que c'est vraiment comme un roman. Mais il y a des photos intéressantes, d'ailleurs, et des dessins, et puis ça nous situe très bien. Oh, c'est paru il y a longtemps, mais ça doit être toujours republié. J'imagine ce genre d'ouvrage est republié au fur et à mesure des ans, hein. Je ne me souviens plus en quelle année c'était publié. De toute façon, donc, elle se sent aussi au contraire heureuse dans les lieux bénis et sanctifiés. Quand un prêtre porte le Saint-Sacrement, elle se sent tirée vers lui à une grande distance. Elle y court, elle s'agenouille. Elle reconnaît aussi les reliques des saints. Oui, ça a été expérimenté très très souvent. J'ai lu les textes, c'est vraiment étrange. Moi, ça me surprend, ça m'étonne, je ne comprends rien. Mais c'est authentique, semble-t-il, d'après tout ce que j'ai pu lire. Et elle dit même l'histoire des saints, qu'elle souvent ne connaît pas du tout. Elle ne se permet que le strict nécessaire sur le sommeil et la nourriture. Elle arrive à un moment donné où elle ne mange presque plus. Elle passe chaque nuit plusieurs heures en prière. Elle couche par terre sur des planches en forme de croix. Quand elle a 18 ans, Jésus lui apparaît tenant dans sa main gauche une couronne de fleurs, dans sa droite une couronne d'épines. Couronne de fleurs, donc, dans la main gauche. Couronne d'épines dans la main droite. Et elle lui demande laquelle elle va choisir, puis elle prend les épines. On peut s'y attendre. Et à partir de ce moment, vous qui la connaissez un peu, vous vous souvenez, elle supporte les souffrances corporelles et visibles de la tête de notre Seigneur dans le couronnement d'épines. Et le sang coule comme une plaie invisible, comme d'une plaie invisible. On voit pas la plaie, mais il y a du sang qui coule. Les savants l'ont témoigné, c'est authentique. Elle n'avouera ce tourment que 5 ans plus tard, vers 23 ans. En 1802, malgré son extrême pauvreté, elle est reçue au couvent des Augustines de Dulmen. Elle se fait religieuse. Elle prend l'habit le 13 novembre. Et puis elle fait une grande maladie qui commence à Noël, le mois suivant, par une violente douleur au cœur. Elle supporte ça en silence durant 2 ans. Et puis, durant plusieurs années d'ailleurs, oui, elle a une extase. Puis elle reçoit en cet endroit la marque extérieure d'une croix. On dit que les oiseaux venaient se poser sur sa tête et ses épaules. Les témoins ont affirmé cela. Elle chante avec eux les louanges de Dieu. On la voit apparaître soudain là où la règle est violée, comme pour empêcher que les sœurs violent la règle. Elle jouit du don des larmes, puis elle verse avec abondance des larmes sur le sort des pécheurs, sur les malheurs de l'Église. Elle a une grande partie de ses souffrances qui viennent de ce qu'elle prend pour elle, les souffrances des autres aussi. Elle s'offre à Dieu avec amour. Et c'est sa conception des choses, pour plaire à Dieu. Son couvent, fermé en 1811 à cause des persécutions sous le gouvernement de Jérôme Bonaparte, elle est reçue chez une pauvre veuve. Et puis les stigmates qu'elle a s'achèvent en 1812. Mais elle porte sur son ventre, on peut dire, sur sa poitrine, une marque semblable à une croix. On dit que la peau se lève souvent, comme après une brûlure, ça laissait couler un liquide. Le 2 novembre 1812, elle sort une dernière fois pour aller à l'église. À Noël apparaît au-dessus de la croix un petit appendice qui rend du sang le mercredi sur sa poitrine. Le vendredi, la croix prend une couleur de feu. Et ce sont des phénomènes extrêmement curieux, c'est pour ça qu'on a cru qu'elle était un peu folle, hystérique, malade. Mais vous verrez par la suite. Le 29 décembre, elle voit une lumière s'abaisser vers elle et des rayons partant des blessures de Jésus, de Jésus-Christ, frappent ses mains, ses pieds, son côté. Hein, ça ressemble beaucoup à saint François d'Assise. Elle ne peut plus marcher ni se lever. Elle ne prend qu'un peu d'eau avec du vin. Elle vomit tout autre chose. Elle n'arrive pas. Les stigmates, jusqu'à sa mort, sont une source de douceur qui sont... On peut pas vraiment raconter la douleur qu'elle ressent, ça dépasse l'entendement. Il y a du sang tous les vendredis, depuis 7h ou 8h du matin jusqu'à midi. C'est ce qu'on raconte. Et c'est ce qu'elle raconte d'ailleurs. Et en 1819, le sang coule plus rarement pour cesser ensuite tout à fait. Alors on voit des cicatrices blanches qui deviennent rouges à certains jours. En 1818, une enquête est ordonnée. Voilà que les enquêtes commencent. Hein. Le vicaire général, je dis bien le vicaire général de Munster, fait surveiller Catherine, qui a alors 44 ans. Il y va lui-même, avec plusieurs médecins, écoutez bien, plusieurs médecins, qui restent auprès d'elle, et qui essaient de guérir les plaies, qui apposent des cachets sur les bandages qu'ils mettent là. Des cachets pour pas qu'on ouvre les bandages et gratter les plaies pour les faire ressaigner, etc. Non, il y a des cachets, c'est-à-dire des seaux, si vous voulez. On la transporte dans une autre maison pour ne constate aucune supercherie. Les mains d'Anne Catherine Emmerich, percées de stigmates, ne pouvaient tenir une plume. Elle était d'ailleurs une pauvre paysanne illettrée. Elle n'aurait pas pu écrire tout ça. Et la douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ, un volume, et la vie de la Sainte Vierge, un autre volume, qui ont paru d'abord, et ont été complétés ensuite par un ouvrage plus considérable, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ en 5 volumes, traduit en français sur la 2e édition allemande par l'abbé de Casales au début, ont été rédigés par Clément Brentano. C'est lui qui était le scribe, si vous voulez, celui qui écrivait. Clément Brentano, c'est un poète qui a eu son heure de célébrité en Allemagne. Et puis, il s'est converti récemment à la pratique religieuse. Il est devenu fervent. Il s'est fait le greffier, comme on dit, de cette grande visionnaire ignorante. Et puis, il fait sa première visite en 1818, le 17 septembre. Et puis, il n'est pas gênant avec elle. Hein? Il ne fait pas des courbettes, et puis il s'incline pas devant elle, non, il est gentil avec elle, simplement. Alors, elle l'aime bien, puis elle lui raconte tout ce qui se passe en elle. Et il met tous les jours sur le papier ce qu'elle lui dit de sa vie intérieure ou extérieure. Et puis, elle lui donne le nom de pèlerin. C'est lui-même d'ailleurs qui se le donne, mais elle aime bien ça. C'est le nom qu'il lui attribue tous les deux, le pèlerin. Il raconte qu'en 1823, il veut accomplir sa tâche tout entière. Il tient la promesse qu'il écrit. Il tient la promesse faite antérieurement de raconter toute la passion. C'est le sujet de ses méditations du carême pendant cette année. En 1820, elle a raconté l'histoire du Sauveur jusqu'à l'Ascension, en commençant du 28 juillet de la 3e année de la prédication de Jésus, après quoi elle est revenue à la 1ère année de la vie de Jésus, et a continué jusqu'au 10 janvier de la 3e année de la prédication, puis le 27 avril 1823, il y a, par suite d'un voyage que fait cet écrivain Brentano, une interruption qui dure jusqu'au 21 octobre, c'est pas bien grave, mais elle reprend alors le fil où elle l'a laissé tomber. Avec une mémoire incroyable, elle continue jusqu'aux dernières semaines de sa vie. C'est vraiment étonnant que cette description qu'elle fait, je vous en lirai des passages qui sont très beaux, vous verrez. On peut les prendre pour ce qu'ils valent, comme je vous dis, mais ça vaut la peine. Nous allons écouter de Haydn les 7 dernières paroles du Christ. Ça s'intitule Sonata, c'est-à-dire Pater dimitti illis non enim sciunt quid faciunt, c'est-à-dire Père, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Je vous parle donc aujourd'hui de Anne-Catherine Emmerich, si jamais elle est béatifiée ou canonisée, comme c'est fort possible puisque sa cause de béatification est présentement à l'étude. Alors Anne-Catherine Emmerich est morte en 1824, donc une grande stigmatisée, une visionnaire extrêmement illustre, et dans ses méditations, dans ses visions, elle commence par suivre, comme j'ai dit au début, son bon ange, soit à la chapelle voisine de sa demeure, soit sur le chemin de la croix de Coisfeld, où elle a été baptisée. Elle suit pendant l'Avent, avant Noël, la Sainte Vierge et Saint Joseph dans leur voyage à Bethléem, ou pendant le carême, le Christ dans les différentes scènes de la Passion. Car, tiens, je vais vous lire, ça va vous faire plaisir, je crois. Une vision de la scène. C'est très particulier, je vous avoue. Cependant, écrit-elle, Jésus devenait de plus en plus recueilli. Il leur dit qu'il allait leur donner tout ce qu'il avait, c'est-à-dire lui-même. C'était comme s'il se fût répandu tout entier dans l'amour. Je le vis devenir transparent. Il ressemblait à une ombre lumineuse. Il brisa le pain en plusieurs morceaux, qu'il entassa sur la patène. Il prit un peu du dernier morceau qu'il laissa tomber dans le calice. Au moment où il faisait cela, il me sembla voir la Sainte Vierge recevoir le sacrement d'une manière spirituelle puisqu'elle ne fut point présente là. Je ne sais comment cela se fit, mais je crus la voir qui entrait sans toucher la terre et venait en face du Seigneur recevoir la Sainte Eucharistie. Puis je ne la vis plus. Jésus lui avait dit le matin à Béthanie qu'il célébrerait la Pâque avec elle d'une manière spirituelle et il lui avait indiqué l'heure où elle devait se mettre en prière pour le recevoir en esprit. Je fais une pause. Nous savons que certains saints jouissaient de ce privilège étrange de bilocation, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être à deux endroits à la fois. Le père Pio jouissait de ce privilège selon les révélations les plus authentiques à ce sujet, et des saints canonisés aussi. Je continue donc la lecture d'Anne-Catherine Emmerich sur cette vision de la scène, la dernière scène. Il pria, Jésus pria et enseigna encore. Toutes ces paroles sortaient de sa bouche comme du feu et de la lumière, et entraient dans les apôtres à l'exception de Judas. Je fais une autre pause. Dites-vous bien que quand le prêtre lit l'Évangile, c'est du feu et de la lumière qui sortent de sa bouche, car c'est le Christ lui-même qui entre en nous. Comme la parole de Jésus ce soir-là entrait dans les apôtres. Je ne blague pas, c'est la vérité. Je continue donc. Jésus prit la patène avec les morceaux de pain et dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Il étendit sa main droite comme pour bénir, et pendant qu'il le faisait, une splendeur sortait de lui. Ses paroles étaient lumineuses, et le pain entrait dans la bouche des apôtres comme un corps brillant. Je les vis tous pénétrés de lumière. Quand nous communions, nous sommes pénétrés de lumière, puisque Jésus l'a dit, « Je suis la lumière du monde ». Nous sommes pénétrés de lumière chaque fois que nous recevons l'Eucharistie. Je continue. Judas seul était ténébreux. Jésus présenta d'abord le pain à Pierre, puis à Jean. Ensuite, il fit signe à Judas de s'approcher. Celui-ci fut le troisième auquel il présenta le sacrement. Mais ce fut comme si la parole du Sauveur se détournait de la bouche du traître et revenait à lui. J'étais tellement troublé que je ne puis rendre les sentiments que j'éprouvais. Jésus lui dit, « Fais vite ce que tu veux faire. » Il donna ensuite le sacrement au reste des apôtres, qui s'approchèrent deux à deux. Si c'est de l'imagination, ce qui n'est pas possible, ça n'en demeure pas moins magnifique, très beau, n'est-ce pas? Très, très, très beau. L'année ecclésiastique fournissait à Anne-Catherine Emmerich les motifs, les divisions de ce drame historique qui est la vie de Jésus, la vie de Marie, où le passé, le présent et l'avenir, la sanctification des âmes, et aussi les profanations, malheureusement, puis le jugement final se déroule à ses yeux tantôt sous une forme naïvement enfantine, ce qui devient peut-être un peu étrange. C'est là qu'on bute, hein. Tantôt, elle a une profondeur surprenante, et c'est là qu'on se laisse convaincre. C'est ainsi qu'elle voit la Sainte Vierge présentée à Saint-Joseph mourant, trois petites tranches blanches, larges d'environ deux doigts, placées d'une près de l'autre sur une petite assiette. On trouve ça dans le tome 1, page 141. Mais à la fin de 1823, elle a la vision relative à la reddition des comptes de cette année, puis elle voit combien de grâces n'ont pas été reçues, combien se sont déplorablement perdues. Elle a des visions sur l'Église militante qui sont bouleversantes, qui se trouve à sombrer par ces négligences des fidèles, et puis par l'oppression aussi de ses ennemis, par des humiliations temporelles comme c'est le cas actuellement pour notre Église. Pensez aux émissions, devrais-je le dire, du réseau 4 saisons. Dieu reçoit qui commence samedi à 7 heures, des horreurs où on verra Jésus se saouler du vin, l'eau changée en vin que son Père lui donnera. Quelle horreur! Comment peut-on présenter de telles émissions à la télévision? Elle s'offre, Anne-Catherine, pour prendre la faute, et puis les suites de la faute, que l'on appelait autrefois la punition. Elle fait le geste d'arracher jusqu'à la racine les mauvaises herbes que les travailleurs négligents ont laissées, et ses mains en deviennent toutes rouges, c'est une symbolique des mauvaises herbes qu'il y a dans l'Église. Elle-même se refuse à donner à ses visions une valeur historique. Elle se refuse à ça, elle ne sait pas ce qui se passe en elle, elle ne veut rien s'attribuer. Extérieurement, elle ne connaît et ne croit que le catéchisme, l'histoire populaire de la Bible et tout le reste dans lequel on a vu une puissante épopée mondiale au développement infini se passe en elle. Et Brentano, celui qui écrit ces choses, qui se donne la mission quoi de traduire pour les lecteurs ses visions souvent enchevêtrées, il l'a rempli avec une abnégation au-dessus de tout éloge. Il a été d'une loyauté scrupuleuse, croit-on. Et Anne-Catherine Emmerich ne se permet jamais d'ajouter à ce qu'elle a vu ce qu'elle révèle par obéissance. Pendant ces dernières semaines, là, entourée de personnes qui l'admirent, elle dit plusieurs fois, « Pour l'amour de Dieu, ne me louez pas, pas moi, si de grâce, cela me retient ici. Je ne puis mourir si tant de braves gens pensent du bien de moi par erreur. » Et elle est morte donc le 9 février 1524. Et les actes de l'enquête ecclésiastique dont je vous ai parlé tout à l'heure constituent un témoignage exceptionnel, un témoignage religieux et moral en faveur d'Anne-Catherine Emmerich. Ça peut vous sembler surprenant, mais une surveillance étroite pendant 10 jours, du 10 au 19 juin, a confirmé l'écoulement du sang des stigmates puis le jeûne perpétuel. Depuis l'apparition des stigmates, on avait remarqué que l'appétit avait disparu, sans que cela soit en rapport avec une maladie quelconque. Et bientôt, Anne-Catherine Emmerich ne consomme plus que de l'eau. Par la suite, une enquête gouvernementale, qui est très longue, qui dure plus de 3 semaines, du 5 au 29 août 1819, n'a pas réussi du tout
malgré qu'on est surveillé pendant 24 heures par jour, n'a pas suffi à apporter des preuves d'aucune supercherie. Cette enquête gouvernementale. Après l'enquête ecclésiastique, là, qui a été faite par un monsieur Wessner, il s'est chargé, lui, des soins médicaux. Son journal, rédigé consciencieusement de mars 1813 à novembre 1819, ainsi que l'histoire abrégée qu'il a écrit l'année de la mort d'Anne-Catherine Emmerich, 1824, pour une revue médicale, sont des preuves, il me semble, indiscutables de la réalité, puis de l'authenticité des stigmates. Il y a un bénédictin, dont Alois Mager, qui a porté un jugement, et ces stigmates, lui, pour lui, constituent en même temps une source rare pour l'étude psychologico-religieuse et médicale de la stigmatisation, justement, puis des phénomènes du même genre. Le naturel et le surnaturel s'entremêlent, comme je vous ai dit au début de l'émission. Le journal de Wessner, dont je vous ai parlé, fait précisément ressortir d'une manière assez extraordinaire l'aspect naturel de la stigmatisation de la religieuse Anne-Catherine Emmerich, je vous rappelle, qui était religieuse augustine à Dulmen, de telle façon que cet aspect n'exclut pas une action surnaturelle quand même. Mais ça l'exige comme explication finale. De toute façon, Wessner, le premier, relate chez Anne-Catherine Emmerich de nombreux cas de hiérognosie, c'est-à-dire dès 1817, Christian Brentano, là, qui a écrit les textes que lui dictait Anne-Catherine Emmerich, avait en effet découvert, comme s'en était d'ailleurs aperçu un abbé Lambert, puis le père Limbert, qui était des directeurs de conscience ou des prêtres qui l'entouraient, l'extrême sensibilité de la stigmatiser au sacré. Dès qu'elle voyait quelque chose de sacré, elle le ressentait avec admiration, surtout pendant ses extases. Et qu'il s'agisse d'authentiquer des reliques, de reconnaître des hosties consacrées, ou d'obéir aux ordres de l'autorité ecclésiastique. Clément Brentano, de son côté, a rendu Wessner attentif au fait que la stigmatisée acceptait volontairement de prendre sur elle les maladies et les souffrances d'autrui pour les soulager, parce qu'elle savait garder l'amour de Dieu au creux de ces maladies, alors que les autres auraient pu se révolter. La plupart des visions d'Anne-Catherine Emmerich lui ont été attribuées par Clément Brentano. Il avait été converti à la pratique religieuse, comme j'ai dit, en 1816. Il a d'abord eu l'intention d'écrire une biographie d'Anne-Catherine Emmerich, mais les visions que cette femme lui a racontées et qu'il notait avec soin lui ont paru si importantes qu'il en a considéré la rédaction et la divulgation comme une tâche providentielle de sa vie. Et c'est un travail considérable qu'il a fait. C'est incroyable. Cet ouvrage raconte donc la vie, la passion du Christ, la Sainte Vierge, etc. Et c'était de 1818 à 1824. Non seulement, dit-il, elle a vu la passion, mais pendant 3 ans, elle a suivi Jésus dans tous ses voyages, à travers la Palestine et hors de la Palestine, et la nature du sol, écoutez bien, les fleuves, les montagnes, les forêts, les habitants, leurs mœurs, tout a passé sous ses regards dans des images claires et distinctes. Et en outre, elle pouvait plonger son regard dans un passé bien plus éloigné puis embrasser l'histoire entière. Mais il y a des choses un peu étrange quand j'ai lu ça sur le passé très lointain. Anne-Catherine Emmerich voit aussi des épisodes de la vie de ses contemporains. Et des états ou des individus même, des malades surtout, des grands pécheurs. Souvent, déclare-t-elle, c'est ce qu'elle raconte d'elle-même, je me trouve à l'endroit même où l'événement se passe et je vois s'accomplir devant moi ce qui est déjà passé. En somme, depuis l'enfance, Anne-Catherine Emmerich jouit de phénomènes de clairvoyance naturelle ou surnaturelle, de vue à distance, de voyage extatique, de vision à caractère historique, allégorique ou symbolique. Alors, on ne sait plus trop à quoi s'en tenir devant tout ça, mais je me fie, moi, aux grands enquêteurs. Malheureusement, ces méditations ou ces visions brodent, comme je vous ai dit, considérablement, sur la trame puis le texte des évangiles. Alors, il faut faire très attention. Je vous mets en garde. Elle ajoute des faits, des discours, des attitudes qui semblent provenir de de son imagination, ou bien on se demande si ça provient pas de connaissances qu'elle a des évangiles apocryphes qui lui auraient été lus, ou bien de commentaires sans grande autorité qu'ont écrit des auteurs précisément spirituels qui ont plus d'imagination que de valeur, hein? Ou bien peut-être qu'elle a eu des contacts aussi avec des légendes de vie de saint, puis tout ça, parce que dans les vies de saint, il faut en prendre et en laisser, hein, dans les vieux textes. Et la part de Brentano, consciente ou non, l'auteur du dictionnaire de spiritualité pense qu'il y a peut-être eu des phénomènes de télépathie, ce serait possible. Ça semble important dans cette affabulation merveilleuse et pittoresque des écrits d'Anne-Catherine Emmerich. Alors comment démêler ce qui relève de la vision, puisqu'il est rédaction personnelle ou l'écrivain? C'est en étant très sage et en lisant ça comme on peut lire un livre un peu romancé et avec un respect. Et quand notre cœur vibre d'amour pour Jésus ou pour Marie, eh bien de prier, c'est tout. Il ne faut pas aller plus loin. Alors l'appréciation objective des visions d'Anne-Catherine Emmerich est délicate. D'authentiques révélations surnaturelles privées, en raison des précisions topographiques qui semblent alors ne pouvoir être connues autrement. Tout ça, quand elle fait des descriptions topographiques, des descriptions des endroits de façon assez extraordinaire, on se dit, ça peut être authentique quand même. Mais on y a signalé des inexactitudes, mais ça ne préjuge en rien de l'authenticité, car l'Église a déjà admis des visions puis des détails matériels erronés dans d'autres visions. Alors ne soyons pas plus sévères avec Anne-Catherine Emmerich, hein, qui semble avoir été dotée dès sa jeunesse donc d'un don de clairvoyance, et Clément Brentano constate chez elle une espèce d'étrange faculté de lecture dans la pensée, puis la possibilité d'être influencée non seulement par une relique, mais encore par un livre qui se trouve à proximité, même à son insu. On se demande ce que c'est. Quoi qu'il en soit, l'abstraction faite de la confiance que mérite Brentano, là, il y a une ambiguïté qui demeure, je vous mets donc en garde. Il semble, à moins qu'on soit mieux informé plus tard peut-être, il semble impossible de déterminer avec certitude si nous sommes en présence de phénomènes naturels, voire d'une espèce de contemplation naturelle, comme c'est analysé dans d'autres articles dans le dictionnaire de spiritualité immense, là, dans le tome 2 en particulier, dans les articles de clairvoyance surnaturelle. Mais ça peut être des phénomènes surnaturels, mais la vie mortifiée de toute façon, puis la vie sainte de cette grande stigmatisée, n'en est nullement affectée si on dit ces choses-là. Sa mission était sans doute de prier, surtout de souffrir avec beaucoup d'amour, d'aider ceux qui souffraient en les aimant, et non pas d'apporter au monde des connaissances nouvelles, probablement. Alors, soyons simples et voyons l'influence qu'elle a pu apporter. Il y a un auteur français, Bernard Gilardino, qui a écrit un livre, « Ce que j'ai vu de Dieu », qui est paru chez Pierre Tecky encore. Et en page 39, j'ai lu ces lignes qui m'ont beaucoup intéressé. Il écrit, cet auteur qui s'est converti, « J'arrivais enfin devant la librairie de la Procure à Paris, hein, c'est tout près de l'église Saint-Sulpice, rue de Mézières. Je ne savais que faire, entrer ou rester là, stupide sur le trottoir. Et je me demandais si je ne ferais pas mieux de rentrer calmement chez moi. Tout à coup, poussé par la curiosité, j'entrais enfin dans cette librairie, qui est immense, hein, je vous conseille, si vous allez à Paris, allez là, c'est immense, immense, des ouvrages religieux fantastiques. Donc, il est poussé par la curiosité, il entre enfin dans cette librairie, et comme un automate, sans regarder ni à droite ni à gauche, je me dirigeais vers un étalage situé au fond du magasin, et là, je saisis machinalement le premier livre qui s'offrit à mon regard, et je lus « La vie de notre Seigneur Jésus-Christ d'après les visions d'Anne-Catherine Emmerich ». Intrigué, je feuilletais ce livre, et aussitôt me revinrent très nettement la mémoire des paroles que j'avais entendues 10 ans auparavant de la bouche d'un camarade de classe, propos que j'avais oubliés depuis. Je le revoyais en esprit dans la cour de récréation du lycée, à l'endroit où je m'entretenais alors avec lui, et je l'entendais à nouveau me dire « Une femme vivant en Allemagne et portant les stigmates du Christ a revécu toute la passion et on a transcrit tout ce qu'elle avait vu. Alors il lit ça et ça l'amène à la conversion. C'est dans « Ce que j'ai vu de Dieu » de Bernard Gilardino chez Tecky. Dans son autobiographie, on dit qu'un des grands bonheurs d'Anne-Catherine Emmerich, au couvent, elle était religieuse, je vous le rappelle, a été le voisinage de la chapelle. Lorsqu'elle était enfant, son ange gardien l'accompagnait à l'église. Il avait montré par son grand respect devant le tabernacle quelle adoration devait être la sienne pour la présence réelle en ce lieu. Et Anne-Catherine Emmerich, qui aurait tant contemplé le Christ dans son humanité, puisqu'elle le voyait, suivit tous ses pas dans le temps, a dit pourtant, écoutez bien ce qu'elle dit, « Je vis sa présence dans le Saint-Sacrement, où il est plus présent encore qu'il n'était sur la terre pendant sa vie. » Car c'est le Christ ressuscité que nous contemplons dans l'hostie, avec les yeux de la foi. C'est le Christ ressuscité dans toute sa splendeur et sa luminosité qui nous échappe. Mais dans la foi, nous savons que c'est ça, c'est lui que nous tenons dans notre main, et que nous prenons, et que nous absorbons pour communier à lui. Après la communion, elle entrait en extase. Elle dit qu'elle avait beaucoup de respect pour ses directeurs spirituels. Elle a dit que l'obéissance est pour moi la racine d'où est sorti tout l'arbre de la contemplation. L'ordre du prêtre lui était plus impératif que celui de l'ange. C'est lui qui la rappelait du plus profond de ses grandes visions extatiques. Et elle disait, « J'entends le mot obéissance. » Il résonne douloureusement, mais à l'instant, elle se retrouvait sur la terre, tournant vers nous son regard affectueux, ainsi qu'en témoigne l'abbé Lambert, qui la dirigeait. C'était vraiment une femme extraordinaire. On dit que la sœur d'Anne-Catherine a un caractère qui est à la fois plein de faiblesse et de dureté. Et cette sœur donne souvent les plus grands ennuis à la malade. Elle a très peu d'affection pour la malade, et de plus aucune déférence. Et pendant des journées entières, elle ne lui donne pas une goutte d'eau et encore moins quelque autre chose. Et le témoin qui est prêtre dit, « Je dois avouer que je ne saurais pas la force à supporter l'esprit de contradiction et d'humeur fantasque de cette sœur si inférieure à son aînée Anne-Catherine Emmerich. » Clemens Brentano a dit de lui que la sœur de la malade était une des grandes croix, des plus grandes croix qu'elle eut à endurer. Il essaiera en vain de lui faire quitter les lieux, mais elle ne partira qu'un an avant la mort d'Anne-Catherine. C'est dire qu'elle savait endurer avec un grand calme les souffrances les plus abjectes alors qu'elle était même malade. Parce qu'Anne-Catherine, douloureuse dans son corps et dans son âme, est aussi devenue un objet de curiosité. Elle doit subir les humiliations les plus pénibles. Ceux qui ne peuvent entrer par la porte s'agglutinent à sa fenêtre. C'est une souffrance énorme pour elle, ça. Elle est, pour ses amis même, un fardeau difficile à supporter. C'est le curé de Dülmen, où est le couvent des Augustines, lorsqu'il lui rend visite, reste auprès d'elle le moins longtemps possible, car il n'a pas la force de la voir tant souffrir. Quant à l'abbé Lambert et le père Limburg, ils voudraient bien voir se dissiper la cause de tant de bruit autour d'elle. Ils finissent même par se méfier un peu d'Anne-Catherine à un moment donné. Alors, pourtant, elle se sacrifie pour tous. Elle offre, dans l'amour, ce qui lui arrive. Elle est d'une patience extraordinaire. Nous allons maintenant écouter toujours de Haydn, les sept dernières paroles du Christ, et cette fois-ci, c'est « Amen dico tibi odieme cum eris in paradisum », c'est-à-dire « Amen, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Celui qui a écrit les visions d'Anne-Catherine Emmerich et les révélations, Clemens Brentano, il écrit « Elle possédait à un haut degré le don de consoler. Elle était affable et affectueuse pour tous, et elle secourait les pauvres en secret. Viens aider les malades et les malheureux, apporter leur fardeau. Ce n'est qu'à cet art que j'ai eu plus de lumière sur cette faculté qu'elle avait de se charger des souffrances d'autrui. Mais on ne pouvait jamais méconnaître en elle cette forme que prenait sa compassion. Lors de notre premier entretien, elle m'engagea avec un visage souriant et de douces paroles à avoir bon courage. Elle disait, beaucoup de chrétiens verront un jour des païens et des turcs qui se sont efforcés de vivre vertueusement selon la loi naturelle, mieux traités qu'eux au tribunal de Dieu. Quand elle parle des turcs, elle veut parler des musulmans. Nous avons la grâce et nous n'en tenons pas compte. Celui qui voit une petite pièce de monnaie dans la poussière court bien vite et se baisse pour la ramasser. Mais si la grâce du salut éternel est à ses pieds, il fait un effort pour passer par-dessus. Il s'éloigne pour poursuivre les chimères de ce monde. Elle raconte que plus d'une fois l'imposition des mains par un prêtre ou le contact de l'eau bénite l'a secourue. Quand elle parle, ce n'est pas pour faire une leçon de morale ni un lourd sermon sur le renoncement, non. Tout ce qu'elle dit est prompt, bref, simple, naïf, avec cela plein de profondeur, plein de vie, et pourtant tout à fait rustique, nous dit Clémence Brentano. Il montre qu'elle est très équilibrée. On y reconnaît une âme délicate, sensée, fraîche, chaste, pleinement saine. Elle vit au milieu de l'entourage le plus incommode et le plus inintelligent, composé de bons ecclésiastiques, de braves gens simples et rustres, et d'une méchante sœur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Toujours malade, toujours près de la mort, soignée d'une façon maladroite et grossière, dirigeant tout, menant tout le ménage de son lit, travaillant, abandonnée, martyrisée, entourée de bruit, tantôt regardée curieusement comme une bête extraordinaire, tantôt vexée par sa sœur comme une cendrillon. Quelle femme! Pour ses visions, les nombreuses et surprenantes communications sur l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, l'Ancien et le Nouveau Testament, les scènes innombrables de la vie des saints, etc., m'ont toutes été montrées, dira-t-elle, par la miséricorde de Dieu, non pas seulement pour mon instruction, car il y a bien des choses que je ne pouvais pas saisir, mais pour être communiqué et pour remettre à jour les choses cachées ou plongées dans l'oubli, et en vue de réveiller des forces spirituelles endormies dans les âmes. Tout ce qui était montré à Anne-Catherine de la Passion du Christ lui tenait particulièrement à cœur. C'est ce que nous essayons de faire, et de vous donner le goût de vivre mieux votre vie chrétienne. Dans les visions d'Anne-Catherine Emmerich, l'histoire sainte et l'histoire profane, la topographie, l'archéologie, la chronologie, la numismatique, les pièces de monnaie, l'art et la science, l'histoire comparée des civilisations, l'agriculture, la vie pastorale, la botanique, la zoologie, la minéralogie, l'étude des antiquités juives, romaines et asiatiques, etc., se trouvent étroitement unis et fondus en un tout harmonieux, dit-on. Seul un génie universel instruit de toutes ces sciences et qui n'aurait aucun des préjugés grands et petits que l'on trouve si fréquemment chez les savants ordinaires pourrait porter un jugement exact sur la valeur scientifique des ouvrages d'Anne-Catherine Emmerich. Hein? C'est un docteur en théologie, ça, qui dit ça, Pfaffer Johannes Niesen, auteur notamment de différents livres en allemand. Mais il y a Jean Guiton aussi, qui écrit en 1975, c'est un don prophétique que possédait Catherine Emmerich. Elle participait à la vision divine. L'histoire, c'est la durée aperçue dans l'instant indivisible, de l'éternité. Seul, dit Jean Guiton, un point de vue éternel connaît l'histoire, parce qu'il ne la voit plus comme une symphonie inachevée, mais comme un poème tout entier donné, encore qu'il se déroule selon les rythmes de temps. L'éternel, Dieu, voit le commencement, le milieu et la fin par un seul acte, alors que nous, plongés dans le milieu sans connaître la fin, nous pouvons à peine saisir les thèmes de cette symphonie qui n'obtiendra son sens que lorsque la dernière note sera posée. Elle dit souvent qu'elle voit au-dessus de l'autel, pendant la messe, une liturgie céleste où les anges supplient à tout ce qui est omis par le prêtre. A dit aussi, il me fallait rentrer dans les ténèbres et considérer de nouveau la malice, l'aveuglement, la perversité, les pièges tendus, les passions vindicatives et l'orgueil, la fourberie, l'envie, l'avarice, la discorde, le meurtre, la luxure et l'horrible impiété des hommes et des femmes. Toutes choses qui pourtant ne leur étaient d'aucun profit, mais les rendaient de plus en plus aveugles et misérables, et les enfonçaient dans les ténèbres de plus en plus profondes. Elle voyait tout ça. Elle a des visions écuméniques absolument splendides sur la réunion des églises, sur la Vierge Marie qui avait à un haut degré, dit-elle, qui ne peut s'exprimer, le sentiment que la pauvreté était la seule chose qui lui convint et à laquelle elle fut destinée. La Sainte Vierge ne pouvait rien avoir de ce qui paraît au dehors, car elle possédait tout en elle-même. Et puis elle avait des visions même du Gange, et elle voit les hindous qui se baignent. Elle a des douleurs inexprimables, mais une consolation intérieure surnaturelle, absolument fantastique. Elle souffre terriblement, elle a des attaques. Et puis, il y a des choses absolument superbes chez elle. Elle est prise d'un ardent désir de porter secours. Et elle unit ses souffrances à la passion du Christ, plein d'amour pour le monde entier. Elle dit que si un seul prêtre offrait le sacrifice non sanglant aussi dignement et avec les mêmes sentiments que les apôtres, il pourrait détourner toutes les calamités. Elle dit tant de belles choses que je pourrais vous en parler pendant des jours et des jours. Et j'y reviendrai. J'y reviendrai.